Bonjour, mesdames et messieurs. Nous sommes aujourd'hui jeudi, le 7 juin, et vous écoutez l'émission Les Voix de Service Magazine. Mesdames, est-ce que j'ai tout dit pour l'introduction de l'émission?
Ben oui, ben
pratiquement.
Oui,
pratiquement. Presque. Alors, vous avez entendu les voix de Marie Lalande.
Bonjour.
Et de Monique Kirouac.
Bonjour, chers auditeurs.
Et Monique, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui?
Alors,
oui, toi, c'est vrai.
Comment moi, c'est vrai?
Attachez-vous à votre café.
Vas-y. Alors d'abord, l'effet placebo.
Oui.
Hein? Est-ce qu'on peut prolonger l'effet placebo? Je n'en dis pas plus.
Pourquoi on voudrait faire ça?
Ben, parce que ça nous aide.
Oui, oui.
Parce que ça, on
est
mieux.
Puis on ne prend pas de médicaments dans ce temps. On pense qu'on en prend.
On verra.
Oui, oui.
Et le deuxième article, c'est en fait sur les microbes que l'on retrouve dans nos maisons.
Oui, c'est là-dessus que je disais aux gens, attachez-vous à votre tasse.
Ça va vous rassurer.
Ah!
Ben, c'est bien.
Okay.
D'accord?
OK, fait qu'on n'appelle pas tout de suite l'exterminateur.
Non, non, absolument pas. Okay. Absolument pas.
Marie.
Alors, je vous présente des résultats de recherche à propos de la réussite des filles versus les résultats des garçons.
La sempiternelle question.
La sempiternelle question. Donc, on va voir à l'avantage de qui les choses vont.
On s'en doute pas.
Non, c'est ça.
Il y a un combat autour de la table, là, présentement.
Oui, mais on va voir que ce n'est pas qu'au Québec que c'est la réalité.
Okay.
Et dans une deuxième partie, on va parler d'examen du ministère de 4e secondaire en mathématiques.
Mm-hmm.
Donc, une initiative de Allo Prof pour soutenir les étudiants.
Ah, OK. Mm. Et de mon côté, j'ai deux articles où il y a des dames qui nous disent « il faut se calmer le gros nerf ». C'est tout.
D'accord.
Alors, Marie, est-ce que l'école favorise vraiment les filles?
C'est la question.
C'est la question.
C'est la question et c'est le titre du texte de Marc-Antoine Boudreau qui est publié sur le site du Réseau d'information pour la réussite éducative, le RIRE, le 4 juin dernier.
Source que tu utilises presque jamais.
Que j'utilise abondamment.
Oui. Parce que tu aimes rire.
Oui, c'est ça. Et vous faire rire. Donc, une étude que des journalistes ont au fait d'analyser est récemment parue sur le taux de diplomation des élèves canadiens. On en a beaucoup parlé. Il en est ressorti un élément troublant. Ce n'est qu'au Québec que l'écart entre la diplomation des garçons et des filles est important. Cet écart de réussite entre les filles et les garçons n'est pas nouveau. Les chercheurs en éducation tentent de l'expliquer depuis longtemps. Peut-on, aujourd'hui quantifier cette différence de réussite, cette différence de résultats scolaires? C'est à cette question que se sont attaqués M. Daniel Voyer et Suzanne Voyer de l'Université du Nouveau-Brunswick en publiant une méta-analyse intitulée « Gender Differences in Scholastic Achievement » et publiée dans Psychological Bulletin. Merci de ne pas rire. C'est gentil.
Ça fait deux jours que tu te pratiques,
oui,
celle-là.
Oui, c'est ça. Un des périodiques de l'American Psychological Association.
Psychological.
Laissez faire. Les deux chercheurs...
C'est sérieux.
C'est sérieux. Les deux chercheurs ont procédé à une méta-analyse de plus d'une centaine de recherches. Ça, c'est sérieux. Qui leur a permis d'étudier méthodiquement les résultats scolaires de plusieurs milliers d'élèves.
Donc, ils ont fait une recherche des recherches.
Oui, voilà. C'est ce qu'on appelle une méta-analyse.
Oui.
Le traitement de ces données leur a ensuite permis de déterminer l'existence d'une différence de genre dans la réussite scolaire et les facteurs qui l'influencent. Dans leur article, les chercheurs utilisent le terme « avantage féminin ». Alors, ça nous donne une idée des résultats. Pour désigner les résultats des filles, qui sont systématiquement meilleurs que ceux des garçons. Voici en quelques points un condensé des résultats d'analyse. D'abord, l'avantage féminin dans les résultats scolaires est significatif dans toutes les matières.
Okay.
Ensuite, l'avantage féminin est plus marqué en langue et moins marqué en mathématiques.
On parle de quel âge?
4e secondaire.
Non, c'est
mathématiques.
Non, et je ne sais pas, honnêtement. Il faudrait que je pousse plus loin.
C'est pas grave.
Ensuite, donc, l'écart entre les résultats des filles et des garçons, alors on va aller vers large ici, l'écart entre les résultats des filles et des garçons est plus drastique au primaire et au secondaire qu'au cégep et à l'université.
Oh.
Donc, plus les jeunes vieillissent, moins l'écart est significatif. L'origine des élèves influence l'écart entre les filles et les garçons quant à leur réussite scolaire. Cet écart est à son plus bas pour les élèves issus des pays scandinaves. Il augmente un peu en Amérique du Nord et encore plus dans le reste du monde. L'écart est moins significatif lorsqu'il y a plus de garçons que de filles dans la classe. Le type d'école, publique ou privée, et la méthode d'évaluation, que ce soit des pourcentages, des lettres, des évaluations standardisées, n'ont pas d'effet significatif sur l'écart filles-garçons. Et l'année de publication des études n'a pas d'impact sur l'écart entre les filles et les garçons. Alors, là, ce qu'on peut dire, c'est que l'absence d'impact de l'année de publication démontre un avantage féminin stable dans le temps et permet de contredire les partisans d'une récente crise des garçons en matière de réussite scolaire. Les résultats présentés ci-dessus, donc dont je viens de vous parler, contredisent le stéréotype populaire voulant que les filles soient avantagées en langue, tandis que les garçons seraient avantagés en mathématiques ou en sciences. Les chercheurs ont avancé plusieurs explications pour expliquer l'avantage féminin dans toutes les matières. En voici quelques-uns. D'abord, le modèle attente-valeur montre que la motivation des élèves est attribuable à leurs attentes ou leurs espoirs de succès et à la valeur qu'ils accordent à la tâche. Les garçons auraient donc possiblement moins d'attentes et accorderaient une valeur moindre aux différentes matières, ce qui réduirait leur motivation et leur investissement en temps et en énergie, donc en effort. Ensuite, certains facteurs sociaux pourraient aussi expliquer l'écart filles-garçons. Les auteurs montrent que les filles reçoivent possiblement plus d'encouragement de la part de leurs parents que les garçons, sans compter le fait qu'elles tendent à valoriser davantage l'effort que ces derniers. Les stéréotypes peuvent aussi affecter l'écart entre les filles et les garçons. Par exemple, on peut transmettre aux garçons l'idée ou la croyance que les filles réussissent mieux à l'école qu'eux. Cette croyance affecterait négativement chez les garçons leurs attentes de succès et entraînerait des efforts moindres, ainsi qu'un manque de persévérance scolaire. C'est comme l'œuf ou la poule.
Oui, c'est tout l'effet vicieux. Suggestion. En
voilà.
Fait, oui, on retrouve aussi en santé. C'est
ouais.
Intéressant.
La différence entre les styles d'apprentissage peut aussi avoir des conséquences positives concernant la réussite scolaire des filles ou l'avantage féminin. En effet, plusieurs études montrent que les filles ont tendance à axer leur travail et leurs efforts sur la maîtrise reliée à de meilleurs résultats, tandis que les garçons axeraient leur travail sur la performance. Et ça change des choses. La dernière hypothèse avancée par les chercheurs concerne les facteurs biologiques. Ces derniers prédisposeraient les filles à une capacité d'attention et à un tempérament mieux adapté à l'environnement scolaire, ce qui se traduirait pour elles par de meilleurs résultats scolaires que ceux des garçons. La méta-analyse effectuée par les Voyer confirme donc que les filles ont un net avantage sur les garçons dans toutes les matières, d'une part, mais que cet avantage tend à diminuer au cégep et à l'université, d'autre part. Comprendre les facteurs qui contribuent à creuser l'écart entre les filles et les garçons quant à leur réussite scolaire peut permettre aux enseignants et aux intervenants scolaires de modifier leurs pratiques et l'environnement d'apprentissage pour aider les garçons et combler cet écart. Alors voilà, la recherche n'est pas terminée, évidemment, mais c'est un éclairage.
Mais si je me fie à quelque chose que j'ai entendu à la radio ce matin, cet écart-là ne se traduit pas en salaire.
Non, définitivement.
Parce que le salaire des hommes, il y a un écart positif du côté des
hommes. Là aussi, il y a des progrès à faire.
Alors, Monique, tu vas nous parler de médicaments, j'imagine, parce que si tu parles de l'effet placebo...
Oui, peut-être, mais aussi de l'effet de suggestion qu'on peut faire...
S'inculquer?
Oui, je pense que oui, en fait. Alors, c'est un article de Martin Lassalle pour le journal Forum de l'UdeM. Tu vas dire que j'aime beaucoup l'UDM. Oui.
Oui. Mais Forum, c'est pas une de tes sources particulières.
Oui, quand même. Mais au moins une fois par semaine. Alors, et ça date du 16 mai dernier et ça s'intitule « L'effet placebo peut persister durant le sommeil ». Alors, des chercheurs de l'Université de Montréal sont parvenus à créer chez des personnes en état d'éveil un effet placebo qui s'est poursuivi au cours de leur sommeil. Une découverte qui pourrait ouvrir la voie à de nouvelles approches pour atténuer la douleur, notamment chez les gens souffrant d'une maladie chronique et qui ont des problèmes de sommeil.
Oh.
Alors, publié dans la revue Progress in Neuropsychopharmacology and Biological Psychiatry. L'étude a été réalisée par 5 chercheurs de l'UDM, soit Daniel au féminin, Laverdure Dupont et Cédric Renancio du département de neurosciences, Jacques Monplaisir du département de psychiatrie et d'addictologie, et Gilles Lavigne et Pierre Inville de la Faculté de médecine dentaire. Alors, on voit là la multidisciplinarité. En fait, pour le connaître, M. Lavigne est un spécialiste de la douleur en médecine dentaire, d'où je crois, et du sommeil, d'où l'association avec les autres chercheurs. L'étude expérimentale menée auprès de 9 adultes consistait à instaurer un conditionnement visant à engendrer un effet placebo pour contrer une douleur provoquée par de la chaleur et à vérifier si cet effet pouvait se prolonger durant le sommeil des sujets. L'effet placebo chez des personnes éveillées est bien documenté dans la littérature scientifique. Il a été démontré que lorsque l'on suggère à un patient qu'un médicament diminuera ses symptômes, le patient peut effectivement ressentir un soulagement. On avait déjà vu aussi comment, si on croit à une thérapie, comment elle peut nous aider. Et je fais le lien avec l'article de Marie, où si on dit aux enfants, ben, toi, tu comme garçon, pas. Tu réussiras pas en littérature, ben,
c'est le meilleur moyen pour que ça arrive.
Ben, c'est ça. Donc, fermeture de notre parenthèse éditoriale, l'inverse est aussi vrai. La prise d'un médicament peut amplifier les symptômes d'un patient si celui-ci croit que le traitement peut être nocif. C'est ce qu'on appelle l'effet nocebo, et c'est pas la noce.
Oh.
Je pensais que tu allais faire cette blague-là, Yvan, fait que je me suis dépêchée de la faire.
Ça, on appelle ça un préjugé.
En fait, ce sont les attentes du patient et le conditionnement qui contribuent à produire l'effet placebo ou nocebo. Les attentes ont une influence lorsque les croyances du patient sont arrimées aux symboles et suggestions qui sont proposées par le soignant ainsi qu'au contexte général. Pour conditionner le cerveau des participants de l'étude, M. Rainville et ses collègues leur ont expliqué qu'ils testaient une crème analgésique réputée efficace contre la douleur. Pendant ce conditionnement individuel effectué en soirée, on leur a installé une plaque de 3 cm sur 3 sur les deux bras et on les a soumis à des stimulations thermiques. À l'insu des participants, la chaleur était moins élevée sur le bras enduit de crème analgésique afin d'accentuer l'impression d'efficacité de la crème et d'entraîner ainsi l'effet placebo. Dans l'intervalle, les chercheurs évaluaient l'incidence des stimulations thermiques sur le cerveau par des mesures polysomnographiques obtenues par un électroencéphalogramme. L'exercice a été répété durant la première nuit de sommeil. J'ai pas trébuché sur mes deux mots, mais j'ai changé le
rythme. On s'excuse parce qu'il y avait un défi là que Monique a surmonté avec
brio,
puis elle s'est enfargée sur quelque chose de bien facile après.
C'est ça. Au cours des deux nuits suivantes, on a mis la plaque sur un bras enduit de crème dite analgésique ou sur l'autre bras non crémé, mais à une température équivalente sur les deux bras, soit 47 degrés Celsius, le seuil de tolérance étant de 50 degrés Celsius.
Okay.
Malgré les stimulations thermiques identiques sur les deux bras, l'effet placebo s'est manifesté chez les sujets lorsque la crème analgésique avait été appliquée sur l'un des deux bras et cet effet s'est poursuivi au cours des phases de sommeil paradoxal, c'est-à-dire les phases au cours desquelles on rêve. Mm-hmm. Outre la réduction de la douleur observée par la polysomnographie grâce à l'effet placebo, les sujets ont rapporté avoir ressenti moins de perturbations du sommeil et moins de douleurs durant la nuit où on leur avait appliqué la crème placebo. Si l'analgésie au placebo a réduit les éveils cérébraux causés par les stimulus thermiques aigus administrés au cours des périodes de sommeil paradoxal, elle a toutefois eu une action inverse pendant le sommeil lent. L'effet placebo augmentait l'éveil cérébral, fait remarquer M. Rainville. Cette différence de l'effet placebo sur les phases paradoxales et lentes du sommeil constitue, paraît-il, selon M. Rainville, un paradoxe en soi. Selon lui, il est possible que l'anticipation de l'effet analgésique soit interprétée différemment par le cerveau pendant le sommeil lent. L'avenue plausible est que quand on n'applique pas de crème placebo sur son bras, le sujet s'endort en sachant qu'il ressentira des stimulations douloureuses. Mais comme il sait aussi qu'elles ne seront pas dangereuses, il pourrait déclencher des mécanismes de protection, comme on le voit chez les patients admis à l'hôpital et qui savent qu'il y aura du bruit autour, mécanismes qui ne seraient pas activés par la crème placebo. L'effet placebo relevé pendant le sommeil paradoxal comporte une autre contradiction. Plus le sommeil est ponctué de phases paradoxales, moins il y a d'effets placebo le lendemain, peu importe les attentes du sujet. Mais j'allais leur dire « remettez-leur de leur quai de la crème ».
Ben oui.
Mais bon, dans la pratique, les conclusions de cette étude devront être validées par d'autres recherches destinées à explorer les mécanismes sous-jacents à la variation de l'effet placebo constaté au cours des phases du sommeil. Le cas échéant, elle pourrait par ailleurs permettre d'améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d'un trouble chronique tel le syndrome des jambes sans repos. Mm-hmm. Alors, on souhaite bonne chance à ces chercheurs et bonne poursuite, en fait. Et c'était donc un article paru dans le journal Forum de l'UdeM du 16 mai 2018, rédigé par Martin Lassalle.
Grand merci. We'll be right back.
Paul Carniello, l'effet que tu me fais.
Oui, oui, oui.
Je suis allé chercher loin.
Pas mal. Non, mais ça suscite en moi plusieurs réflexions. Enfin, mais je vous amène complètement ailleurs. Je vais vous parler d'une dame qui s'appelle Pierrette Saint-Pierre. Pierrette, elle écrit son nom P-I-E-R-R-E-T, Saint-Pierre. C'est dans la chronique « Actif au quotidien » dans la presse. C'est la chronique qui nous dit comment fait quelqu'un, souvent, c'est comment fait quelqu'un pour faire de l'activité physique régulièrement à travers tous les aléas de sa vie. Cet article-là, ça a été écrit par Marie Tison dans la presse du 6 juin d'hier. Et c'est intitulé « Marcher pour vivre jusqu'à 100 ans ». Alors, je vous parle de Pierrette Saint-Pierre, 67 ans, retraitée. Pierrette Saint-Pierre marche, encore et encore. Le 19 avril dernier, elle est partie des chutes du Niagara avec le projet de marcher un peu plus de 2000 km jusque chez elle à Carleton-sur-Mer, en Gaspésie. Le 26 mai dernier, elle a traversé Montréal, un trajet qu'elle a pu partager avec d'autres marcheurs. Et là, c'est l'entrevue. Avez-vous toujours été active? Oui, depuis ma tendre enfance. À 3 ou 4 ans, j'avais déjà mes patins à 4 lames. En fait, c'est 2 lames chaque barre. J'ai continué à faire du sport en toute saison, mais jamais à l'extrême. Il va falloir qu'elle m'explique qu'est-ce que ça veut dire l'extrême pour elle. Quel sport pratiquez-vous? L'hiver, c'est le patin à glace, la raquette et un peu de ski de fond. L'été, c'est le patin à roues alignées, toutes sortes de sports d'été, du tennis, du badminton, mais pas de sport d'équipe. Je marche beaucoup. J'ai toujours été une fille de montagne. J'ai fait de la très haute montagne comme le Kilimandjaro, le camp de base de l'Everest, l'Elbrouz en Russie. Avec l'âge, je me suis dit, on se calme le pompon. On va rester sur le plancher des vaches et on va marcher. J'ai fait des sentiers de grande randonnée en Europe et au Québec. Comment avez-vous eu l'idée de marcher des chutes du Niagara à Carleton-sur-Mer? Il y a 2 ans, je furetais sur Internet et je suis tombé sur un article de la page Facebook de Bottes et Vélos. J'en ai déjà parlé dans le passé de ce site-là, qui parlait de ce trajet à vélo. C'est sûr que leur itinéraire ne me convenait pas. À vélo, on peut faire 100 km par jour. À pied, on oublie ça. Je l'ai adapté pour moi. J'ai planifié mes propres étapes. Ça a pris une longue préparation? Ça fait 1 an que je prépare mon projet. C'est très long de fouiller partout, de déterminer le kilométrage pour chaque jour, de trouver mes hébergements, le ravitaillement. Justement, est-ce que vous campez? Ou vous couchez dans des gîtes. J'ai ma tente. Je privilégie le camping. Je devrais camper 50% du temps. Ensuite, je reste sur des campus universitaires, dans des résidences étudiantes. En dernier lieu, je vais prendre un motel le moins cher possible, mais ça peut jouer de mauvais tours. Quand ce n'est pas cher, parfois, c'est juste bon pour la démolition. Votre sac doit être lourd. Combien de kilomètres parcourez-vous par jour? Mon sac pèse 8 ou 9 kilogrammes. J'ai tout pesé avant de partir, même le moindre chandail. On peut dire que je fais en moyenne de 20 à 25 kilomètres par jour, mais c'est très variable. Avant-hier, j'en ai fait près de 40. L'endroit où je voulais aller était fermé. Il a fallu que je change mon itinéraire. Il faut être prêt à ce genre de choses. Qu'avez-vous fait en guise de préparation physique? J'ai marché. Pour moi, marcher, ça fait partie de mon quotidien. Chez moi, tous les soirs, je vais marcher 5, 6, 7 ou 8 kilomètres après le souper en toute saison. Y a-t-il aussi une question de préparation mentale? Oui, il ne faut pas se leurrer, se trouver tous les jours toute seule à marcher. Je ne suis pas sûr que c'est tout le monde qui peut faire ça. Y a-t-il des jours où c'est plus difficile de se motiver? Non, je suis d'un naturel comme ça. Je me lève, go, je pars. Advienne que pourra. C'est sûr qu'il y a des journées plus difficiles que d'autres, mais je rencontre tellement de bonnes gens. Quand ils me voient avec mon sac, ils sont intrigués. Ils m'arrêtent et moi, j'aime ça parler avec le monde. Pourquoi est-ce important pour vous de demeurer physiquement actif? Ma mère marchait tous les jours. Elle est décédée à 96 ans. C'est une pneumonie qui l'a emportée. J'aimerais ça être en forme comme elle. Je ne vois pas comment je ne pourrais pas vivre jusqu'à 100 ans au moins. Je ne me vois pas à 75 ou 80 ans me bercer dans une maison de retraite. Je souhaite juste que mon cerveau reste en forme. Je fais ce qu'il faut pour ça. Quand j'aurai 104 ans et que j'irai dans une maison de retraite, quand j'aurai à me bercer, je vais bercer mes souvenirs. D'ici là, avez-vous des projets? J'en ai tout le temps. Mes 3 prochaines années sont déjà programmées. Je suis toujours en train de préparer quelque chose. L'année prochaine, je veux suivre le Sentier international des Appalaches de Matapédia à la pointe de Gaspé. L'année suivante, je veux traverser les Pyrénées. Et après, pour mes 70 ans, je veux faire une marche de 5000 km. Alors, c'était Marcher pour vivre jusqu'à 100 ans. C'était Pierrette Saint-Pierre, 67 ans, retraitée, qui nous dit que pour elle, aller prendre une marche, un petit bout. On a-tu le temps pour un mot d'enfant?
Oui. Alors, clôture, selon Marion Quatrain, c'est un grillage pour que les voisins ne se mélangent pas.
Oh! Là-dessus, on va faire un peu de ravitaillement et on vous revient pour parler de bébites dans les maisons. Don't know what's happening. This ain't what I'm about. It's only been a week. And I'm parked outside of your house. It's about to go down. Woo! I'm not thinking straight. Since I'm stuttering, slurring my speech, I'm gonna be your slave. You got me like a dog on a leash. Ain't too dumb to beg. Your body makes me wanna believe. And I'm down on my knees. Let's book a shopping trip. Maybe I could charter a jet. And I don't give a shit if I never get out of debt. I say you'll be my girl. And I promise you I'll handle with care. What you doing to me? Take out all my money from the bank. I took you to the jeweler, told you pick a ring. I took you to the dealer, told you pick a range. I took you to the parlor, spent $100 on a tattoo with your name and your face. And when all of the cash out, credit card maxed out, I'ma sell the house, baby, you're the real estate. See, I won't even stress for a sec, cause your loving is the best if I just make a bad decision. Get all my money from the bank. From the bank, girl. Take you round the corner by the rain. By the rain, girl. You're all up in my head, but I ain't even mad.
You make me wanna make a bad decision. You got me confessing like you're my new religion. Roméo et la chanson Bad Decision.
Bad Decision.
Bad Decision. J'ai juste pris mon temps pour prononcer le mot en anglais.
Mais c'est-tu D-A-I-Y?
Non, ou... like décision, mauvaise décision, bad decision.
Bad decision. OK. Alors, on revient à nos...
Je peux m'amuser aussi de mon bar.
Oui, hein, je comprends.
Oui, c'est pas juste ici.
On revient à nos bébites, mais pas tout de suite. C'est des bébites de d'autres personnes trouvent que c'est des bébites, par exemple. Se préparer des examens, c'est wesh.
Oui, alors nos élèves du secondaire, ils sont face aux examens, particulièrement aux examens du ministère.
Oh.
En quatrième secondaire, les examens de mathématiques. Donc, examen de fin d'année, révision en ligne et en direct. C'est un texte d'Isabelle Audet, publié dans la presse le 4 juin. Au cours des prochaines semaines, les élèves du 4e secondaire du Québec devront passer l'examen ministériel de mathématiques. Pour bonifier leur préparation, Alloprof lance un nouveau service, la cyber-révision. Deux jours avant leur examen, les jeunes pourront assister à une séance de révision en direct, à la manière d'un webinaire. Pendant une heure, un enseignant passera la matière en revue, mais il répondra aussi aux questions spontanées des élèves. Il prodiguera des conseils sur les stratégies à adopter pendant l'examen, il proposera des outils pour se préparer et il soulignera les erreurs à éviter. Testé récemment en vue de l'épreuve ministérielle de français en deuxième secondaire, la formule a connu un succès inattendu. Sans la moindre publicité, des centaines de jeunes ont pris en note les conseils de Laurie Pelletier, enseignante. Les consignes sont très claires pour les examens du ministère, souligne Marc-Antoine Tanguay, porte-parole d'Alloprof. On ne peut pas donner d'indices. On a vraiment misé sur les stratégies pour se préparer, pour bien étudier, pour calmer le stress. Et l'écho qu'on a eu des élèves, c'est que ça les a bien aidés. Il existe trois programmes de mathématiques pour les élèves de 4e secondaire. Alloprof a donc opté pour la présentation de trois séances de révision distinctes afin de mieux cibler les besoins des jeunes. On peut rendre service aux élèves qui sont très performants à l'école, mais on va surtout rejoindre les élèves pour qui c'est un peu plus difficile au niveau de l'organisation ou de la compréhension, explique M. Tanguay.
En général, on parle des garçons. Si je me fie à ton premier article.
Oui, mais on ne généralisera pas ici. Okay. Parce que c'est les mathématiques. On a beaucoup d'impact auprès de ces jeunes-là. C'est ce que M. Tanguay ajoute. En offrant cette révision deux jours avant l'examen, Alloprof prend en considération que beaucoup d'élèves attendent au dernier moment pour se préparer. Historiquement, les appels des élèves la veille des examens importants grimpent en flèche à Alloprof. Ils étudient presque tous la veille et ce n'est pas une bonne idée. S'ils comprennent tout, ils sont chanceux, mais s'il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas, c'est trop tard. Il serait pertinent de faire une cyber-révision une semaine avant, mais les élèves ne seront pas là. Deux jours avant, c'est déjà un gros gain par rapport à l'habitude de s'y mettre seulement la veille, fait remarquer M. Tanguay. Les prochaines révisions virtuelles viseront les examens de mathématiques en quatrième secondaire seulement, mais au cours des prochains mois, Alloprof compte en offrir davantage. En attendant, le service d'aide rappelle que l'on trouve sur son site des outils pour accompagner les élèves du primaire et du secondaire dans leurs révisions en mathématiques, mais aussi en français, en anglais, en sciences, en histoire, en géographie, en physique et en chimie. Et moi, j'ajoute que l'adresse web de Alloprof, c'est pas compliqué, c'est alloprof.com. Non, pardon, c'est www.alloprof.qc.ca. Et je suis allée voir sur le site pour la cyber-révision. La révision, il y a une révision ce soir à 19h pour la préparation à l'examen de mathématiques SN. Ça, c'est les sciences naturelles. Le prof Christian qui va présenter 5 problèmes types que l'on trouve dans l'examen, des conseils de base, puis il y a des modérateurs qui pourront clavarder avec les étudiants.
Wow.
Ensuite, il y a 4e secondaire, toujours en maths, TS. Ça, c'est le 11 juin à 19h. Et 4e secondaire, maths CST. Ça, c'est culture, société et technique. Et donc, c'est le 14 juin à 19h. Alors, c'est 3 type d'examen de mathématiques 4e secondaire.
Puis, autre petite précision pour les gens qui ne connaissent pas ce vocabulaire-là, un webinaire, c'est un séminaire sur le web.
Voilà, merci pour la précision, c'est très juste.
Alors, Monique, tu vas nous parler des microbes qui nichent dans la maison.
Je savais que ça... ça
Et tu parles pas des adolescents dans le sous-sol.
Non, absolument pas. Absolument pas. Alors, c'est un article de M. Yves Sciamma pour la revue Science et Vie des mois de mars-avril-mai 2018 et qui s'intitule « Quels microbes nichent exactement dans nos maisons? » Alors, la traque des microbes, bien les scientifiques l'avaient toujours réservée au milieu où les agents infectieux sont redoutés, à commencer par les hôpitaux, où l'objectif est la stérilité, c'est-à-dire l'absence complète de microbes. Je ne sais pas si on y parvient, mais bon.
Je penserais que non.
Les banals microbes de notre quotidien, eux, n'avaient jamais fait l'objet d'études approfondies. Jusqu'à ce qu'en 2015 ait lieu le Home Microbiome Project, projet microbiote domestique, piloté par une équipe de l'Université de Chicago. Ce fut l'exploration la plus complète jamais entreprise sur l'environnement domestique et le monde microbien qui le peuple. L'expérience aura duré 6 semaines. Chaque jour, une vingtaine de volontaires ont effectué des prélèvements dans leur logement. Heure par heure, chacun a promené des cotons-tiges humides sur les poignées de porte, les interrupteurs, la table de la cuisine, la cuvette des toilettes, le sol, etc. On s'imagine dans un CSI, hein? De quoi collecter des milliers d'échantillons qui ont tous été minutieusement étiquetés. Et enfin, trouver une réponse à ces questions à l'échelle d'une maison ou d'un appartement tout entier. Où sont exactement les microbes? D'où viennent-ils? Quelle est leur nature? Notre ignorance en la matière n'est pas sans conséquences. Depuis les découvertes de Pasteur au 19e siècle, nous percevons le monde invisible des microbes qui nous entourent comme une menace grouillante, à combattre avec force de détergent et eau de Javel, n'est-ce pas?
Oui, mon Dieu, c'est un film d'horreur.
Alors, Yvan montre Marie du doigt. Oui. On devine qui s'occupe des microbes.
Partage ça.
Or, surprise! Les conclusions du Home Microbiome Project ont pris l'exact contre-pied de ces a priori négatifs.
Ah bon?
Non que les microbes domestiques soient moins nombreux qu'on ne le croirait. Leur abondance est au contraire phénoménale. Chaque centimètre carré de nos maisons est recouvert de centaines de milliers de bactéries, le groupe le plus largement dominant, mais aussi de champignons et de virus. Surtout, l'étude révèle un fait sidérant. L'origine de cet univers microbien, c'est nous. Mais les humains. Loin d'être menacés par l'extérieur, nos logements nous reflètent parfaitement. La signature microbienne de chaque maison peut sans ambiguïté être rattachée à la peau de ses occupants. Voilà déjà une dizaine d'années que le concept de signature microbienne a été découvert. Chaque être humain porte sur sa peau un mélange spécifique de bactéries appartenant à quelques 600 espèces différentes. Mm-hmm. Une faune propre à chacun, unique, résultat à la fois de nos gènes, de notre histoire personnelle, rencontres, maladies, mode de vie, j'imagine alimentation, etc. D'où l'idée de l'équipe de chercheurs de demander aux participants d'effectuer aussi des prélèvements à la surface de leur propre peau, pour les comparer avec les échantillons récupérés sur les meubles, les sols ou les objets de leur foyer. Le verdict a surpris les chercheurs, tellement chaque participant s'est révélé être une inépuisable fontaine microbienne inondant tout sur son passage. Chacun projetant autour de lui, sans discontinuer, une nuée de quelques 15 millions de micro-organismes par heure. « C'est plus que les chiens ou les chats », commente Jack Gilbert, qui a dirigé l'étude, « car nous sommes l'une des très rares espèces de mammifères à peau nue, dont l'épiderme se renouvelle, du coup, très activement. Un seul toucher sur une surface humide, transfère plus d'1 million de bactéries.
Un million?
Oui. Autre découverte, la faune microbienne n'est pas fixée une fois pour toutes. Au contraire, elle évolue. Le fait de vivre ensemble fait converger les signatures microbiennes de chacun, qu'ils soient membres d'une même famille ou simples colocataires, au point qu'elles deviennent parfois très homogènes. Les chercheurs ont échantillonné les familles qui déménageaient ou arrivaient dans une chambre d'hôtel, constatant l'incroyable vitesse à laquelle la microbiote de chacun se répand, le microbiote, pardon, de chacun se répand sur le lieu de vie. Au bout d'une heure, on peut voir que quelqu'un de nouveau est arrivé dans un logement. 24 heures après, c'est comme s'il avait toujours été là. Que nous apprend cette expérience? D'abord, un constat. Dans notre environnement bâti, nous avons à peu près éliminé toute source de micro-organismes autres que nous-mêmes. Les villes se goudronnent au point de rendre impossible tout contact avec la terre. Les matériaux comme les carrelages, le verre, les alliages deviennent de plus en plus stériles. Les techniques de nettoyage et les produits ménagers sont sans cesse plus performants. Résultat, 80 à 85% des microbes des maisons modernes sont d'origine humaine. Ensuite, une leçon. S'obstiner à stériliser à tout bout de champ notre habitat ne serait pas si bénéfique. C'est même contre-productif, a montré une étude californienne fin 2014. 4000 ou 5000 espèces seraient souhaitables dans notre environnement. Quelques astuces pour diversifier, avoir des animaux domestiques qui rapportent dans le logement de nombreux microbes inoffensifs, mettre des plantes et des tapis dans toutes les pièces, ouvrir les fenêtres tous les jours, laver raisonnablement au savon sans désinfecter, y compris les sanitaires. Alors, est-ce que vous êtes plus à l'aise maintenant avec les microbes dans vos maisons?
Oui, mais maintenant, moi, je ne parlerai plus de moi au « je », je vais parler de moi au « nous », moi et mon microbiote.
Voilà. Alors, c'était un article de M. Yves Sciamma pour la revue Science et vie de mars-avril-mai 2018.
C'est ça que tu as dit tantôt?
Oui, c'est 3 mois.
Alors, mesdames, c'est l'heure. C'est l'heure du carnet d'endorphines.
Oh, oui, bravo.
De Geneviève Lefebvre.
Notre meilleur.
Dans la presse du 30 mai. Je les garde un peu.
Oui, tu nous gardes sur le qui-vive.
Ben, le désir, c'est important aussi. Donc, ça s'appelle la sagesse des maîtres. Dans la zone de transition, elles sont deux, en train de s'installer, tranquilles, avant le départ de ce demi-Ironman. Là, un demi-Ironman, écoutez ça, 1,9 km de nage. Ça, j'ai vérifié tantôt, c'est 76 longueurs de piscine de 25 mètres.
Mm-hmm.
90 km de vélo.
Mm-hmm.
Pour moi, c'est une bonne journée.
Une journée et demie.
Non, c'est pas une journée et demie, mais c'est une bonne journée.
Ben pour moi, c'est une journée et demie.
Et surtout, 21,1 km de course. Ça, c'est un demi-marathon. Ça, c'est un demi-Ironman. Deux Anglaises dans la soixantaine, belles comme le sont les femmes quand elles passent leur vie dehors, avec cette simplicité translucide du regard au milieu d'un océan de taches de rousseur et ces visages de madone du grand air qui se contentent d'un peu de rouge à lèvres les grands soirs. Ce jour-là, c'est un tout petit matin, gris, froid, peu aimable. Tel un enfant qui prépare sa crise, le ciel nous garoche un crachin frisquet. Wow, un crachin frisquet, gardant ses salves et ses trombes d'eau pour la partie vélo. Des murs d'eau qui tomberont si durs qu'ils nous forceront à fermer les yeux en pédalant nos 90 km en aquaplanage. C'est tellement le fun.
Ben oui, pourquoi on fait ça? Hein?
Mes deux Anglaises ont sorti un Tupperware plein de biscuits maison, un thermos de thé et une serviette brodée à la main.
Wow. Pendant la pluie?
Oui. Avant de partir.
Ah, dans la petite bruine, là, oui, oui. Légère.
Have a cookie, dear. Est-ce que vous voulez un biscuit, ma chère? Me dit Kate en me tendant la boîte. Ça sent les épices, la mélasse et le zen. Ces filles-là s'en vont s'agiter comme des brutes pendant des heures et elles sont plus relaxes que des Marseillais devant une partie de pétanque. Curieuse, je m'informe. C'est pas votre premier, hein? C'est pas leur premier, en effet. Ces filles sont des vétéranes du triathlon. Elles ont fait toutes les distances, y compris plusieurs redoutables Ironman, et dans tous les États, partout dans le monde. Elles sont même parfois montées sur le podium dans leur catégorie d'âge, et ce n'est pas qu'elles s'en seraient vantées, c'est qu'elles ont ri de la fois où Anna est rentrée chez elle alors qu'on l'attendait pour lui remettre une médaille. Elle ignorait qu'il y avait des gagnants. C'est quoi leur arme secrète pour rester si calme? Elles éclatent de rire en cœur. Cookies! Trois biscuits plus tard, nous voilà devenus les meilleurs amis du monde. Kate et Anna m'apprennent qu'elles ont commencé leur excentricité sportive sur le tard, dans la quarantaine, alors que les enfants étaient enfin adolescents et moins accaparants. Habituées de gérer plusieurs dossiers à la fois, charge mentale, anyone? Elles m'avouent qu'elles trouvent la pratique du triathlon relaxante. En effet, en comparaison avec des familles nombreuses et des jobs simultanés, j'imagine que juste trois sports à gérer, c'est de la petite bière. Moi, je suis un peu énervé. Au pire de grands bouleversements dans ma vie, je m'étais inscrite à la distance du 70,3 km sur un coup de tête, plongeant dans l'entraînement pour oublier tout le reste. J'avoue donc à Kate et Anna que je m'apprête à faire mon tout premier demi-Ironman et qu'en plus de leurs fameux biscuits, je suis prête à écouter tous leurs conseils. Elles m'ont tendu le thermos de thé, qui était brûlant, au lait et très sucré. Toutes des substances pas très orthodoxes dans le monde des sportifs, mais licites. « Have some tea, sweetie. Prenez un peu de thé, ma chère. » Qui étais-je pour les ostiner, moi, la petite débutante, alors qu'elles étaient qualifiées pour les plus durs championnats du monde en triathlon? J'ai bu le thé. Ensuite, elles m'ont dit que ça ne servait à rien de s'énerver, que l'entraînement était fait et qu'il suffisait de rester calme, de ne pas partir trop vite et après, de faire ce qu'il y avait à faire. « Do what you gotta do ». J'avoue qu'au milieu des avalanches de conseils qu'on nous donne, généralement à des moments où le disque dur est saturé, celui-là était simple à retenir. Elles m'ont donné un coup de main pour zipper mon wetsuit et nous sommes partis ensemble à la ligne de départ. Après, je les ai perdus de vue, mais je n'ai pas oublié le conseil. Je ne suis pas parti trop vite et j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Un coup de bras, un coup de pédale, une foulée à la fois. J'ai profité pleinement de ce moment de répit dans le tumulte de ma vie. Et à l'arrivée, je les ai vus, toutes les deux, derrière la barrière. Mes aînés avaient terminé avant moi, en train de me crier « Looking strong, Jen! Ça va bien, Geneviève! » Ce qui m'a fendu la face d'un sourire qui est resté jusqu'à la fin. En sport de compétition, quand on est vieux, on devient un « master », un « maître ». Comme M. Miyagi dans Karate Kid. Ces deux filles-là sont mes M. Miyagi. Elles m'ont appris l'art de ralentir le mouvement, de me calmer le gros nerf et de ne pas avoir peur de mettre beaucoup de sucre dans le thé avant une compétition. Have a cookie, dear. C'était La sagesse des maîtres de Geneviève Lefebvre dans son carnet d'endorphines dans la presse du 30 mai 2018. Alors, on a un beau 5 minutes pour des belles brèves. Marie, tu commences.
Alors, le parc Frédéric Bach accueillera en fin de semaine une partie des activités gratuites de la programmation estivale de la TOHU. C'est dans ce vaste espace vert situé sur un terrain d'enfouissement que se tiendra Grain de ciel, la grande fête du cerf-volant. En plus d'assister à des envolées pilotées par des professionnels, enfants et adultes pourront participer à des ateliers de confection de ces intrigants et souvent très colorés objets volants. Grain de ciel se déroule les 9 et 10 juin, donc samedi et dimanche, de 10h à 17h. Puis la TOHU, ben c'est Saint-Michel, Boulevard métropolitain, à Montréal.
C'est un bel endroit, ça.
C'est un très bel endroit.
Et quel beau titre d'événement.
C'est beau, hein? Grain de ciel.
Vraiment, c'est magnifique. Alors, une petite capsule linguistique, ça fait longtemps. Fait-on les choses en grand ou en grande?
En grand.
On peut faire les choses en grande pompe ou en grand, mais pas en grande.
Non, c'est ça.
En fait, on ne doit pas utiliser la locution en grande sans la faire suivre d'un nom. Par exemple, on peut acheter un produit en grande quantité ou on peut être en grande conversation avec quelqu'un. Faire quelque chose en grande pompe, c'est faire quelque chose avec une solennité exagérée. De nos jours, d'ailleurs, cette locution comporte presque toujours une connotation ironique. En revanche, faire quelque chose en grand, c'est faire quelque chose sur une vaste échelle ou sans retenue. Donc, au lieu de dire qu'on fait en grande, il vaut mieux dire qu'on fait en grand.
Mm-hmm. Oh, voilà. Bon, OK. Alors, le 10 juin, c'est samedi, ça?
Dimanche,
OK. C'est la Marche du Rhin. Créée en 1964, la Fondation canadienne du Rhin a pour objectif d'alléger le fardeau que fait peser cette maladie sur les personnes atteintes et leurs familles, de financer la recherche sur les maladies rénales, d'offrir des programmes éducatifs et de faciliter l'accès à des soins de qualité. Elle cherche également à sensibiliser le public à l'importance du don d'organes. Plus de 110 millions de dollars ont été amassés depuis la création de la Fondation. Chaque année, la marche, un parcours de 5 km, a lieu dans une vingtaine de villes au Québec. Celle de Montréal aura lieu le 10 juin au Parc La Fontaine et les inscriptions peuvent être envoyées jusqu'au jour de l'événement, c'est-à-dire jusqu'à dimanche.
Alors, est-ce que les chiens sentent vraiment qu'on a peur?
Je pense que oui.
Oui, mais pas seulement. Ils sont capables de reconnaître nombre d'émotions, comme le stress ou la tristesse. Le chien a en effet un sens de l'observation beaucoup plus aiguisé que le nôtre. Il est extrêmement attentif au comportement non-verbal, ce qu'on ne savait pas, et paraverbal. Il peut par exemple détecter une dilatation du diamètre de la pupille, ainsi que nos mimiques et gestes les plus discrets, les différentes intonations de notre voix et même le hérissement des poils sur notre peau.
On n'a pas beaucoup de chance. Moi, de mon côté, je vous parle du duathlon urbain. C'est le 14 juin, donc c'est dans une semaine, c'est jeudi de la semaine prochaine. C'est la Fondation CHU Sainte-Justine qui est derrière cet événement présenté pour la 8e fois. Cette année, l'objectif est d'amasser au moins 350 000 $ pour le Centre d'excellence en soins intensifs du nouveau-né du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine. Il s'agit d'une course à relais ludique et festive au cours de laquelle plus de 300 personnes courront et pédaleront dans les rues de Montréal à partir du Square Dorchester. Les participants sont invités à revêtir leur tenue de sport la plus originale ainsi que la cravate officielle du duathlon urbain. Chaque équipe doit compter 2 cyclistes à bixie et 1 coureur. Le prestigieux veston jaune sera remis à l'équipe la plus performante dans sa collecte de fonds. Et on termine avec un mot d'enfant.
Télescope. Selon Gabriel, qui a 5 ans, c'est un tube qui permet de regarder la télévision de très loin.
C'est magnifique.
Ça, c'est quand les parents t'envoient te coucher dans ta chambre. Alors, un gros merci à Mathieu Tessier pour la mise en onde et pour nous avoir endurés. Et on vous donne un rendez-vous pour la semaine prochaine.